petit polar, du lundi au vendredi à minuit 5 sur France Bleu.
Plein cadre sur France Bleu, Élodie Suigo, Denis Farreau.
Un an après le nom français au référendum, nous vous proposons deux émissions européennes, aujourd'hui et demain, avec deux invités. L'un qui a défendu le oui il y a un an, l'autre qui a défendu le non. Et nous allons voir avec eux les conséquences du vote de 2005.
Celui qui a défendu le oui, c'est l'ancien ministre Michel Barnier et ancien commissaire européen. Ce sera demain soir à la même heure, ici dans Plein Cadre. Celui qui a défendu le non, c'est Étienne Chouard, prof d'informatique à Marseille, qui est devenu l'une des figures du non, on va dire grâce à Internet. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Vous êtes à Aix-en-Provence, dans un studio de France Bleu Provence, tout près de chez vous. Votre site était l'un des plus visités pendant la campagne, votre site internet. Qu'en est-il un an après ?
Il y a toujours beaucoup de monde, mais moins.
Moins quand même, j'imagine. Moins,
oui, bien sûr, mais c'est toujours trop pour un seul homme. Hein,
Faut peut-être vous aider. Hein. Le feuilleton ce soir de la semaine, une histoire de foot, Denis.
Avec deux fondus de foot qui préparent la Coupe du Monde, le fils et le père. Le fils, c'est Mathias, 8 ans.
Mon père, des fois, il me laisse regarder la première mi-temps et c'est tout. Parce que je dois y aller à l'école le matin, le jour d'après. J'ai gagné 6-0 contre mon père et 4-0 hier.
Et puis le cinéma ce soir avec le retour de Cannes, on va dire.
Mais oui, Jean-Pierre Bergeon qui nous fera donc un petit bilan des prix qui ont été attribués aux gens qu'il finalement avait annoncé, Jean-Pierre Bergeon puisque c'est notre star à nous sur France Bleu, le star du cinéma évidemment.
Plein cadre sur France Bleu, Élodie Suigo, Denis Farreau.
Notre invité ce soir, c'est Étienne Chouard, prof d'informatique à Marseille, qui est devenu l'une des figures du non grâce à Internet, Denis.
Juste un petit rappel pour que les choses soient claires. Vous êtes européen. Dans un premier temps, vous pensiez voter oui à la Constitution l'an passé. Et puis à la lecture du texte, vous avez changé d'avis. Et vous avez fait changer d'avis des Français avec vos arguments. Qu'est-ce que vous vous dites avec le recul ? Est-ce que vous êtes encore étonné de votre succès de l'an passé grâce à Internet ?
Oui. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant toujours, mais ben, ça donne la pêche d'avoir tant de monde derrière.
Pourquoi est-ce que ça...
Ça avait du sens, hein, ça avait beaucoup de sens et c'est pas fini. C'était qu'un début de prise de conscience.
Pourquoi ça a fonctionné à votre avis ? Pourquoi est-ce que la mayonnaise a pris ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas un homme politique ?
Oui, en partie. Mais pas seulement, je crois qu'il y a plein d'ingrédients qui se sont agencés les uns avec les autres. Il y avait un énorme besoin. Il y avait des défenseurs que du oui qui avaient la parole. Le non était diabolisé, il était ridiculisé, il était diminué, il était mal défendu. Et pourtant, on sentait bien que c'était pas normal qu'il y ait aussi peu de défenseurs du non. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché la réflexion de beaucoup de gens, de gens qui ne faisaient pas de politique avant, c'est le nom de Fabius. Parce qu'il était profondément européen, il avait construit l'Europe, et puis, enfin, il avait participé, et puis, c'était vraiment pas normal qu'il dise non. Alors, ça m'a amené à lire son bouquin, petit bouquin, facile à lire, qui expliquait bien ce qui n'allait pas dans le traité. Enfin, il y avait une partie des arguments qui ne développaient pas.
En fait, c'est vraiment le déclic, ça. Hein.
C'était le déclic, ouais.
C'est ce qui vous a donné envie de créer ce site.
Il y a Strauss-Kahn qui en a écrit un autre pour défendre le traité, qui était bien aussi, qui était un petit bouquin, qui était bien fait, qui décrivait bien les avantages du traité, les avancées, qui étaient incontestables. Hein. Le traité comportait de nombreuses avancées, mais il ne répondait pas à ce qui était injustifiable, ce qui était inacceptable.
Alors, plaçons-nous...
Donc, c'était un dialogue de sourds, déjà.
Plaçons-nous ce 29 mai 2006, c'est-à-dire un an après, vous avez forcément entendu parler de ce sondage qui dit que 98% de ceux qui ont voté non voteraient la même chose aujourd'hui.
99, oui, je crois, j'ai lu.
Ah bon, on n'a pas les mêmes chiffres ? On ne va pas se battre pour 1%.
Non, pas du tout.
89% de ceux qui ont voté oui feraient la même chose. Quel est votre constat à vous sur l'Europe un an après ? Elle va moins mal ? Elle va plus mal ? Ou c'est pareil ?
À mon avis... Elle va mal, mais ça ne date pas du non. Le non a été un révélateur. Mais la crise ne peut pas être imputée à ceux qui ont renoncé, qui ont refusé à ce que ça continue. On nous avait mis dans la prison de Nice sans nous demander notre avis. On nous demandait de fermer la porte et de jeter la clé par la fenêtre. On a refusé de fermer la porte et de jeter la clé par la fenêtre, mais on est toujours dans la prison de Nice. Donc, en fait, la bagarre fait que commencer contre des gens qui s'étaient mis en tête de construire sans nous un système d'institutions qui n'est absolument pas démocratique. On utilise des euphémismes délicats pour parler de déficit démocratique, mais c'est bien plus grave que ça, en fait. Il n'y a plus de place du tout pour les citoyens dans ces institutions. Il n'y a plus de place pour les citoyens. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient injustifiables.
Voilà, ben,
qu'est-ce qui est injustifiable pour vous ?
La totale absence de contre-pouvoir réel, l'irresponsabilité des acteurs politiques. Si vous cherchez qui est responsable de ces actes dans cette Europe, c'est consternant. La seule institution qui soit responsable, c'est la Commission, qui peut être censurée. Puis vous apercevez, quand vous regardez un peu comment elle peut être censurée, vous apercevez que c'est aux deux tiers, pas à la majorité, à une majorité renforcée. Et c'est difficile d'avoir une majorité renforcée dans un Parlement qui est aussi hétéroclite. Chaque petit groupe de parlementaires est élu dans son pays. Il n'y a pas une opinion européenne avec des médias européens qui permettrait de fabriquer ou d'aider une opinion à émerger. Donc, en fait, c'est difficile d'obtenir deux tiers d'une majorité au Parlement contre la Commission, ce qui fait que cette Commission, en plus, la responsabilité de la Commission est engagée sur sa gestion et pas sur sa politique. Donc, c'est formel comme responsabilité. Et tous les autres sont irresponsables. Le Conseil des ministres est irresponsable. Le Conseil européen des chefs de gouvernement est irresponsable.
Alors
le Parlement est irresponsable.
Justement,
personne n'est responsable là-dedans.
Attendez, à partir du moment où de nombreux pays ont ratifié la Constitution...
Leur Parlement ont ratifié, mais pas leur peuple.
Oui, j'ai dit des pays, oui, effectivement.
Ouais. Et vous, c'est très, très différent.
Oui. Vous préconisez quoi ? Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord avec cette Constitution, qu'il en faudrait une autre, et on verra que ça va même un petit peu plus loin, puisque vous voulez sauver la démocratie. J'ai oui. lu ça sous votre plume. Mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui, dans les mois ou les années à venir, sachant que certains ont ratifié et d'autres pas ?
Alors, vraiment, il y a un préalable qu'il faudrait formuler, je crois, très fortement. C'est que dans mon esprit, les parlementaires, qui sont des gens importants, hein, je ne suis pas du tout anti-parlementaire, on a besoin des parlementaires, mais les parlementaires ne sont pas habilités, ils n'ont pas de légitimité à changer eux-mêmes les règles du pouvoir, les limites de leur propre pouvoir. On est fous, nous, citoyens, qui avons besoin de ces gens-là, hein, mais on est fous si on les laisse écrire eux-mêmes les constitutions et les modifier. C'est pas aux parlementaires, fussent-ils en congrès, c'est pas à eux de fixer les limites de leur pouvoir.
On les
c'est
a élus idée. Quand même, ces parlementaires.
Oui, mais pas pour ça. C'est comme si un locataire vendait l'appartement. On l'a élu, on les a élus pour... c'est vrai, non, mais on les a élus pour nous représenter, pour endosser temporairement notre souveraineté populaire... Mais pas pour la brader, pas pour la refiler, si vous me permettez l'expression, à des institutions dans lesquelles on n'a pas notre mot à dire et on perd finalement le contrôle, le peu de contrôle qu'on avait au niveau national, on l'a plus du tout au niveau européen. On s'est fait avoir, quoi, par des gens qui ont outrepassé leurs droits. Pour
moi, ce ne sont pas ceux que nous avons élus qui doivent décider.
Pas décider de ça. Pas décider de la Constitution.
Alors qui va écrire la Constitution ?
D'autres. On est des millions, dites. On peut trouver d'autres parlementaires. Enfin, d'autres, il ne faut pas dire parlementaires, ce sont d'autres constituants. Ce sont des citoyens qui ont... Il me semble qu'il faudrait qu'ils aient renoncé au pouvoir. C'est-à-dire, il faut que ce soit des gens qui soient prêts à écrire... Et il y en a plein comme ça, hein, je peux vous dire, qui sont prêts à écrire les règles qui mettent en place les pouvoirs et qui vont les limiter. Et puis, qui se promettent... et qui promettent aux autres de jamais être candidats. C'est-à-dire qu'il faut que les constituants, et on est bien assez nombreux pour trouver à la fois des constituants et des parlementaires, mais il ne faut pas que ce soit les mêmes, sinon ils vont tricher. Et ils le font depuis la nuit des temps, on ne peut même pas leur en vouloir, c'est naturel.
Alors,
ce n'est pas à eux d'écrire les règles du pouvoir.
Ça pourrait être des citoyens comme vous, qui seriez l'une des plumes de la Constitution ?
Comme moi ou d'autres, je veux dire, il y en a plein des gens qui ont une réflexion, on s'en aperçoit quand on se plonge là-dedans. Alors c'est vrai que... La plupart des citoyens sont dépolitisés, c'est un vrai problème grave, quoi. Mais les institutions poussent à ça, qui ne nous offrent aucun horizon politique, en fait, et donc ça incite pas à avoir une réflexion politique. Mais dès qu'on réfléchit, dès qu'on lit des bouquins sur la réflexion politique de nos aïeux, on s'aperçoit que tout a été réfléchi, tous les contre-pouvoirs ont été pensés déjà pendant la Révolution française. C'est une mine à idées. Mais on ne peut pas les appliquer si on laisse écrire les règles du pouvoir par ceux qui sont même au pouvoir parce qu'ils ne vont pas les appliquer. Si vous attendez qu'ils vous donnent le vote blanc comptabilisé et efficace. Vous pouvez attendre longtemps si vous attendez qu'il limite le cumul des mandats. Vous pouvez attendre longtemps si vous attendez que les parlementaires vous donnent le référendum d'initiative populaire qui permettrait de les court-circuiter dans les cas de problèmes graves. Eh bien, vous pouvez attendre longtemps. Les parlementaires ne vous donneront jamais ça.
En fait, faudrait, c'est un petit peu comme en classe, il faudrait élire des délégués de classe, c'est ça ? En quelque sorte.
Oui, si vous voulez.
Qui représenterait le peuple français.
Mais, non, mais les parlementaires nous représentent. C'est très très bien l'institution parlementaire. Je ne conteste pas. Voilà, je voudrais juste que les... Enfin, c'est mon idée. Hein. Y a très peu de cas dans lesquels ça se soit passé comme ça. Les citoyens se font avoir comme ça depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde. Hein. Donc mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que ça a toujours été que ça doit être. Hein. Les femmes se sont fait maltraiter pendant des millénaires et c'est pas pour ça qu'il faut que ça continue.
Non, donc, d'ailleurs, je vous le confirme, faut pas que ça continue, faut que ça s'arrête.
Voilà. Donc c'est pas parce que les citoyens se sont fait avoir par leurs représentants, même si depuis Aristote, on nous prévient que les hommes au pouvoir ont tendance à en abuser et qu'il faut s'en protéger. Il faut juste garder le contrôle. Il ne faut juste pas leur laisser la bride sur le cou complètement. Il faut conjuguer deux mécanismes. Un mécanisme de l'élection qui est un choix pour l'avenir. Et il faut le conjuguer avec un autre pouvoir qui, pour nous, a complètement disparu, qui est un pouvoir de jugement pour le passé. Et ben ces deux pouvoirs-là sont essentiels. On ne les aura pas si on les laisse écrire eux-mêmes les règles.
Quand
Donc
vous
c'est
dites...
à nous de les écrire. C'est à n'importe qui d'autre qu'eux. Parce que sinon, ils sont jugés partis.
Étienne Chouard, quand vous dites que vous voulez sauver la démocratie, vous y allez un peu fort. C'est une formule quand
même.
Non,
pas du tout, pas du tout. Enfin, la sauver, c'est même plus que ça. Il faut la
construire. Parce que la démocratie, elle fonctionne. On nous a proposé un référendum et les Français ont choisi de dire non avant de construire autre chose.
C'est pas une tyrannie, c'est pas la dictature, mais ça n'est pas la démocratie. C'est un état intermédiaire. On est comme dans la préhistoire de la démocratie. On a les élections, le suffrage universel, c'est fondamental. Il faut lire ce qu'écrit Rosan Vallon là-dessus. C'est passionnant. De comprendre l'enjeu immense qu'il y a dans le suffrage universel. Donc c'est une étape fondamentale, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi la liberté d'expression. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Si vous laissez les règles du pouvoir écrire par les gens qui sont au pouvoir, vous allez perdre même ces étapes-là.
On a bien compris le message. Qu'est-ce que vous faites, vous, depuis un an ?
Alors, depuis un an, j'ai écrit un deuxième texte qui résume les principes que j'ai repérés, moi, hein, comme étant essentiels pour nous protéger les citoyens de gauche comme de droite. Hein. Tout le monde a besoin d'être protégé contre les abus de pouvoir. C'est pas l'apanage d'un bord ou de l'autre. Donc j'ai écrit un texte en octobre qui s'appelle « Grands principes d'une bonne constitution » et qui en repère une bonne cinquantaine. Et puis ensuite, pour l'Europe et pour la France, j'ai testé... Regardez un peu quels étaient les principes qui étaient appliqués, ceux qui ne le sont pas. C'est incroyable, c'est tout en rouge. Il y a très peu de principes protecteurs. La plupart sont factices. Par exemple, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On nous rebat les oreilles de ce grand principe formidable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais au minimum, il faudrait, comme en Suisse, en Italie, dans la moitié des pays des États-Unis, il faudrait qu'on puisse décider nous-mêmes des questions qui nous semblent essentielles. Eh bien, en France, vous ne l'avez pas. La case, elle est en rouge. Et en Europe, on nous fait croire qu'il y a l'équivalent, comme si on n'était pas capable de voir que ça n'a rien d'équivalent. Le droit de pétition, c'est-à-dire le droit de râler avec, en face, la possibilité de ne rien faire, c'est-à-dire aucune obligation juridique de tenir compte de cette pétition. Pour moi, ça compte pour rien. C'est humiliant, ce droit de pétition. Ça ne compte pour rien.
Donc vous faites une proposition en tant que citoyen.
Alors voilà. Alors après
avoir envie de pouvoir.
Absolument. Alors après avoir écrit ces principes, en janvier, j'ai ouvert une partie blog et puis en février une partie forum qui rend le site interactif. Et ça permet à qui veut, mais je vous invite à y venir. Il faut qu'on soit très nombreux. On ne pourra pas être des millions parce que ça deviendra ingérable entre nous, mais je vous invite à au moins le lire.
Ah là, il faudra monter une petite entreprise dans ce cas-là. Hein.
Peut-être. Ouais, non, mais j'ai un boulot, je ne peux pas. J'y passe déjà mes nuits. Donc, c'est une partie interactive qui permet de rapprocher nos points de vue, de vérifier qu'on ne se trompe pas sur l'essentiel. Et l'idée, c'est de discuter des principaux principes, par exemple...
Alors, je vais juste vous couper deux secondes, parce que vous allez développer après ces principes qui nous intéressent, évidemment. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes Étienne Chouard, prof d'informatique. Vous avez défendu le nom.
Le fait que je sois prof d'informatique...
Non, mais c'est important, parce que c'est assez étonnant, justement.
On va dire prof tout court, si vous voulez.
Ouais. Bon, prof tout court.
C'est vrai que le goût d'expliquer ça, en l'occurrence.
Et vous êtes donc devenu des figures du nom grâce à Internet.
Cela dit, vous ne seriez pas prof d'informatique, vous n'auriez peut-être pas développé votre site Internet de la façon que vous l'avez développé, parce que je l'ai visité, il y a des choses à l'intérieur.
Oui, c'est vrai, mais c'est surtout le fond qui prend du temps. On a bien compris. La technique n'en prend pas tant que ça.
À tout de suite.
On en parle dans un instant.
Vivre en musique.
Bonjour, c'est Patrick Bruel sur France Bleu.
C'était des rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme.
Diversité. Concert.
J'attends l'amour, la douceur et la fillette. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment.
Succès. Sourire.
Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voire sous les jupes.
Vivre en musique avec France Bleu, c'est mieux.
Plein cadre sur France Bleu, Élodie Suigo, Denis Farou.
Et Étienne Chouard, surtout, qui est donc le défenseur de la Constitution européenne, le défenseur du non, et qui est devenu l'une des figures du non, justement, grâce à Internet.
Le constat des journalistes, des médias dans leur ensemble depuis deux jours, parce que c'est la date anniversaire, c'est que le non de l'an passé n'a pas fédéré. Chacun crie ou parle dans son coin. C'est votre sentiment ?
Peut-être, mais ce n'est pas notre faute. Nous, on fait ce qu'on peut. En tout cas, moi, je fais ce que je peux pour imaginer une alternative. Ça fait un an que je réfléchis à ce qu'on peut faire pour proposer quelque chose de plus malin pour protéger les gens. On ne pourra pas construire une Europe qui tienne la route si on ne demande pas aux gens eux-mêmes s'ils la veulent. C'est incroyable de même pas leur avoir posé la question. Mais alors, l'Europe, on l'a fait ou on ne la fait pas ? Et avec qui on l'a fait ? Et c'est incroyable de nous mettre avec des gens qui n'ont même pas dit oui, c'est-à-dire que c'est leurs parlementaires qui ont dit oui. Mais vous épouseriez une femme dont c'est le père qui a dit oui et pas elle ? Mais ça n'a pas de sens. Moi, j'accepte pas ça. Je veux pas assimiler la ratification par parlementaire à la ratification par référendum. Ça n'a rigoureusement rien à voir. La ratification par le Parlement, pour moi, c'est une félonie. C'est pas juste, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est à nous de décider, c'est pas à eux. Vraiment.
Elle ressemble à quoi, votre Europe idéale, Étienne Chouard ?
Oh, une Europe qui protège les gens contre les abus de pouvoir. Vous savez, c'est pas il n'en faudrait pas beaucoup pour que ce soit beaucoup mieux. Hein. Je veux dire, pour l'instant, entre deux élections, des élections dans lesquelles vous pouvez même pas dire que les candidats vous plaisent pas. Si vous dites, mais moi je veux ni Chirac ni Le Pen, c'est pareil en France et en Europe. Hein. Vous dites, mais je veux ni l'un ni l'autre, moi. Je vais voter blanc pour dire je veux ni l'un ni l'autre. C'est mélangé avec les nuls. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mélangé avec les nuls ? C'est-à-dire que vous pouvez pas dire partez, j'en veux d'autres. C'est incroyable ce niveau. Alors ça, c'est au niveau des élections. Et après ça, entre deux élections, vous avez une espèce de tunnel d'obéissance d'où vous pouvez pas sortir. Il y a rien à faire pour résister à vos élus entre deux élections. Vous parlez d'une démocratie. Moi, je parle de l'âge de pierre, de la démocratie. Alors, c'est vrai qu'il y a pire. Il y a des régimes pires. Mais je parle, pour moi, l'idée que je me fais de la démocratie, elle laisse plus de place au débat, elle laisse plus de place aux citoyens, en collaboration avec les politiques. Hein. D'ailleurs, j'imagine bien une assemblée dans laquelle il y aurait à la fois des élus et en même temps des gens qui seraient tirés au sort et qui seraient comme un poil à gratter, imprévisible, immanipulable, qui changerait souvent, comme il y avait à Athènes. À Athènes, il n'y avait que des tirages au sort et des mandats courts d'un an. Hein. Donc je ne demande pas à ce que toute l'Assemblée soit comme ça, mais vous savez, imaginez une Assemblée nationale dans laquelle il y aurait peut-être une vingtaine, une trentaine, peut-être une cinquantaine de citoyens qui sont imprévisibles parce qu'ils sont tirés au sort tous les 6 mois ou tous les ans. Et il faut bien sûr qu'il y ait un statut de l'élu qui les aide à quitter leur boulot temporairement et le retrouver après, à l'issue de leur mandat. Mais véritablement, là, ce que j'appelle les kratocrates, c'est-à-dire les gens qui s'installent dans le pouvoir et puis qui n'en sortent plus. Les kratocrates, ça vient de Kratos, pouvoir.
D'accord.
Kratos, pouvoir. C'est-à-dire c'est ceux qui gardent le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir. Eh bien, je les appelle des arapèdes qui s'accrochent aux rochers, des arapèdes kratocrates.
C'est bon pour l'addiction, surtout, ça.
Une pollution de la démocratie. Je voudrais que ça tourne comme à Athènes.
On a bien compris que votre non au traité, il y a un an aujourd'hui, et la campagne qui a précédé, ça a été le déclencheur pour vous.
Ouais,
parce que à partir du traité constitutionnel, c'est toute notre démocratie, c'est toute notre vie politique au sens large du terme que vous remettez en question.
Oui, absolument. Et puis je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que dans toutes les discussions politiques qu'on a eues autour du référendum de l'an dernier, il y a des tas de gens qui, comme moi, se sont réveillés et se sont aperçus que c'est folie de ne pas faire de politique. C'est folie de laisser la politique aux politiciens professionnels. C'est du suicide. Ça va nous conduire indirectement, hein, mais ça pourrait bien nous conduire, à, comme ça nous a conduit il y a 60 ans, à une guerre. C'est-à-dire que les politiciens de plus en plus proches des industriels, de plus en plus proches des milieux d'affaires, laissent vendre les journaux et les télés comme des savonnettes. Et finalement, on se fait piquer les médias, on se fait piquer cet outil fabuleux qu'est la télévision qui nous permettrait de faire émerger une opinion publique bien informée, mieux informée. Au lieu de ça, on nous divertit, regardez, à la télévision, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de débats. Les hommes politiques ne peuvent plus aller s'exprimer que dans les émissions de divertissement, mais c'est une caricature de régression politique. Hein. Mais dépolitiser les gens, c'est très politique.
Alors je suis sûr que la question suivante, ou peut-être les deux dernières, vont vous agacer un petit peu parce que vous allez dire que ce n'est pas le fond du débat. Mais moi j'imagine les auditeurs de France Bleu qui nous écoutent et qui se disent comment ce prof, d'informatique ou pas, de Marseille s'est lancé dans la bataille, pourquoi il dort 3 heures par jour, pourquoi cet engagement à la cinquantaine, on va dire, grosso modo, ça prend du temps, ça prend visiblement tout votre temps cette affaire.
Ouais. Ça prend toute la place. Et on ne peut pas imaginer, malheureusement, ça rend le truc pas vraiment transposable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que tous les citoyens s'engagent autant. Mais on n'a pas tellement besoin qu'ils s'engagent autant, en fait, hein, parce qu'il faudrait qu'ils s'engagent un peu. Il faudrait qu'ils se rendent compte que la Constitution n'est pas un texte poussiéreux, ennuyeux, et qu'il ne faut surtout pas laisser la Constitution à des experts. C'est le seul texte qu'il faut qu'on garde pour nous. Tout le monde doit connaître sa constitution sur le bout des doigts et doit avoir un avis dessus. Rien de mieux pour ça que d'en écrire un petit bout pour s'apercevoir que « Oh mais purée, mais c'est important ce que je suis en train d'écrire ». Et là, dès que vous vous mettez à écrire un petit peu, vous vous apercevez que vous êtes au cœur de vos libertés. Ça vaut le coup. Je vous conseille à tous d'essayer un petit peu d'écrire. Vous allez voir que vous êtes... C'est un texte qui vaut le coup de s'y pencher.
Vous allez dire que je suis curieux, mais comme vous n'avez pas vraiment répondu à ma première question, comment votre femme et vos 4 fils de 13 à 23 ans prennent la chose, votre passion ou votre mission, j'ai l'impression parfois ?
Ouais, mission, c'est peut-être un peu exagéré parce que je ne ferai rien tout seul et tout ça, il faut qu'on le fasse ensemble, mais ils sont très patients. Heureusement que je les ai et qu'ils s'occupent. De tous dont du même coup j'ai pas à m'occuper.
Etienne Chouard, moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que finalement le fond du débat c'est pas de dire aux Français qu'il faut croire en l'avenir, parce que c'est ça le fond du problème. C'est que les citoyens aujourd'hui, vous parlez de les responsabiliser, parce que c'est un peu ça aussi les citoyens, ce qui vraiment ils prennent conscience et ils se battent au quotidien. J'ai un peu l'impression qu'ils suivent le mouvement. On a eu une alerte avec effectivement le dernier débat politique et la dernière élection, mais est-ce que c'est pas compliqué de faire prendre conscience aux Français aujourd'hui qu'il faut croire en l'avenir.
Mais vous avez raison, mais croire en l'avenir, il faudrait être plus concret. En fait, l'avenir, il se construit. Je vous conseille d'écouter les cours de Rosan Vallon, Pierre Rosan Vallon a donné au Collège de France.
Que vous mettez sur votre site internet, d'ailleurs.
Voilà, j'ai mis plein de liens sur mon site. Je trouve ces leçons immenses. Ce gars-là articule les idées de nos aïeux pour montrer l'importance d'un pouvoir de surveillance en plus de l'élection. C'est essentiel son travail pour sortir de l'immensité des choses à savoir, de sortir, il y a trop de choses, on ne peut pas tout apprendre, mais sortir ce qui compte, c'est vraiment très important ce qu'il écrit. Et les dernières leçons montrent comment il ne faut pas non plus que ce soit une société où on surveille trop les hommes politiques, hein, il a raison, si on s'en méfie trop, on va perdre carrément nos représentants politiques et ça peut devenir dangereux, mais... Vraiment, l'ensemble de ces cours, c'est important. Il faudrait les lire. Et quand vous dites qu'il faut croire en l'avenir, mais il faut surtout s'engager un petit peu. Il faut s'en occuper. Il faut pas dire c'est la politique, c'est pas pour moi. Moi, je fais pas de politique. Si vous dites ça, c'est du suicide un peu, quoi. Hein. C'est-à-dire que
la
guerre sera
pas.
Et puis voilà, faut pas se plaindre, quoi. Hein. Vous plaignez pas d'être maltraité si vous vous foutez de la politique, parce
Etienne
que le seul Chouard. Moyen de la changer, c'est d'en faire. Et c'est beau, hein, d'en faire.
On s'arrête. C'est idiot. C'est parce que l'heure a tourné. Puisqu'on parle du site internet, donnez-le quand même, mais pas trop fort, parce qu'après vous allez être débordé à nouveau.
Il suffit de taper Chouard. Ça commence comme les chouans, ça finit comme tête de lard. Il suffit de taper Chouard sur Google et vous arrivez au bon endroit. Mais on a besoin des journalistes pour organiser des débats avec d'autres personnes que les hommes politiques professionnels. Organiser des débats, c'est vraiment de la discussion que jaillit la lumière.
Merci.
Merci beaucoup. Prof d'informatique, hein, c'est ça?
Ouais. Merci.
Allez, à bientôt.
Bon courage, bonne continuation. Vous prenez des vacances cet été?
Cet été, on va essayer d'écrire une constitution. On va écrire.
D'accord. Ouais.
Bon courage, merci.
À bientôt.
France Bleu, ça s'écoute aussi sur Internet.
FranceBleu.com. Les journaux.
Retrouvez les titres de l'actualité sur chacune de nos radios.
Les émissions.
Écoutez les directs des locales et accédez à leurs programmes.
FranceBleu.com. Les événements.
Consultez l'agenda des événements région par région.
Retrouvez les stations du réseau France Bleu sur FranceBleu.com, le site Internet de France Bleu.
h 31, l'actualité de ce lundi avec les phrases du jour.
Valéry Giscard d'Estaing est à la une en tant que père en quelque sorte de la constitution européenne, un an après le nom.
On a trompé les Français, on leur a dit qu'il y avait une constitution meilleure, ce qui était une blague. On leur a dit que la constitution introduisait l'ultralibéralisme, ce qui était une autre blague.
Dominique de Villepin accueille